Fermés pour des raisons de COVID-19, les frontières terrestres avec les pays voisins ont été récemment ouvertes à la circulation. Mais comment les populations du département de Doropo, zone frontalière au Burkina Faso et le Ghana, ont vécu la situation de fermeture des frontières? Et surtout, comment s'organisent-elles aujourd'hui pour accueillir le flux de déplacés fuyant les atrocités de la situation sécuritaire au Burkina Faso et qui arrivent chaque jour à Doropo par de multiples pistes de contournement créées pendant la période de fermeture des frontières? Vous faire vivre la situation actuelle qui prévaut dans cette bande frontalière est le but de ce reportage réalisé à Doropo et proposé par Jérôme Kouassi de Bouna pour le compte de la Radio de la Paix. Les entrées officielles étant fermées à la circulation pour des raisons de COVID-19, les pistes reliant les villages et les hameaux de part et d'autre des frontières avec les pays voisins, le Burkina Faso et le Ghana, sont devenues ici des voies de contournement pour éviter les forces de l'ordre, témoigne Sansan Kambou, le président de la jeunesse lobby de Doropo.
Quand c'était fermé, ça nous causait toutes sortes de problèmes. Parce que on voit les pays voisins à l'œil, mais on ne peut pas traverser de façon officielle comme il se doit. On est obligé de contourner par la bourse, ce qui n'est pas normal. Et souvent, si vous vous croisez avec les forces de l'ordre, c'est tout un tas de problèmes.
Le paradoxe est que malgré l'interdiction de voyager, le transport de marchandises et de convois clandestins de personnes avec des tricycles par des voies détournées s'était développé aux frontières devenues poreuses, affirme Dan Angeline, présidente de l'Union des femmes de Doropo.
Les gens passaient par la piste pour aller au Burkina. Bon, souvent, quand ils quittent en basse-côte, ils arrivent ici, il faut forcément rentrer. Donc, ils sont obligés de prendre les tricycles. Au lieu de passer par la voie normale, ils préfèrent passer contourner, puisque avec les tracasseries, ils se disent que à cause de ça, ils passent par la piste.
Le constat est le même, fait par la présidente des femmes de la communauté Peul, Dame Kadi, qui a toujours souhaité l'ouverture prompte des frontières.
Bon, les gens rentrent en désordre. Il y a plein de routes. Donc, en tout cas, moi, j'aimerais qu'on ouvre la frontière. Parce que quand on ouvre la frontière, les gens passent sur la voie normale. Si tu arrives à la frontière, on te demande, tu vas chez qui, tu donnes le numéro de ton tuteur. Maintenant là, toi quand on t'attrape dans les petites routes, ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché.
Le maintien prolongé des frontières fermées a favorisé l'avènement d'un marché noir au profit des trafiquants, qui a été préjudiciable à l'économie de la Côte d'Ivoire, selon Sansan Kambou, représentant de la jeunesse de Doropo.
Ça joue un peu sur l'économie ivoirienne parce qu'il y a beaucoup de marchandises, des produits qui devraient passer par la voie normale pour que la douane puisse dédouaner, pour que tout ça passe dans la caisse de l'État. Donc tous profitent de la fermeture des frontières et puis bon, chacun essaie de trouver en tout cas sa piste pour pouvoir évacuer ses produits. Et toujours, ils sont en pleine lutte avec les agents des douanes parce qu'à chaque fois qu'ils entendent les bruits de tricycles la nuit, ils se disent que non, c'est des trafics qui passent comme ça. Donc ils sont obligés de braquer leur courage pour aller affronter vraiment ces genres de choses-là. Ça a aidé nous, la population, comme ça n'a pas aidé le gouvernement. Ça nous a beaucoup aidé parce que nous, ceux qui font les affaires dans ce sens-là, si tu arrives à faire entrer tes produits que la douane n'a pas dédommagé, tu vois l'intérêt que tu peux gagner dedans.
Le service des douanes a été dans l'obligation d'organiser par moment des séances de récompenses et d'explications sur l'utilité de ces prestations afin de regagner la confiance des populations.
Mais par contre aussi, je salue le courage de la douane la fois passée qui a eu une séance de travail avec la population pour remercier, pour honorer, même ils ont même donné des prix à ceux-là qui prennent leur courage pour passer de douaner leurs produits. Ils les ont donné des prix par rapport à ça. Et à partir de là, la confiance a gagné la population. Ils nous ont exhortés, non. Ceux qui pensent qu'en passant par la douane, là, c'est mauvais, il y a trop de taxes dedans. Si tu envoies, tu ne pourras pas vendre pour t'en sortir. Ils nous ont démontré par A plus B que non. Ça, c'est des faux affaires. Et que si tu passes par la voie normale, la douane sait comment il t'arrange pour que toi aussi, là, tu n'ailles pas vraiment vendre à perte pour ne plus repasser. Il t'arrange toujours pour que, en tout cas, si tu partes, pour que tu puisses avoir le courage de repasser et voire même exciter d'autres personnes qui doutaient, qui n'avaient pas confiance à passer par la voie normale.
La réouverture des voies officielles permet d'entretenir les liens séculaires entre les familles de part et d'autre des frontières, se réjouit Sansan Kambiré.
Et aujourd'hui, ils ont ouvert ces frontières-là. C'est un grand ouf pour nous. Tu te lèves à n'importe quelle heure, si tu as tes pièces au complet, tu vas au Burkina, les yeux ouverts, sans crainte, sans souci, tu rentres, tu sors comme tu veux. Ce qui n'était pas le cas hier. Et aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Ça en train de donner en tout cas un autre visage, vraiment, qu'on avait perdu depuis un bon moment à cause du Covid qu'on traversait.
Une décision que salue Somme Angeline. Pour elle, cela permettra d'identifier les passants.
Mais maintenant, avec l'ouverture des frontières, je pense que ça ira. Parce que tous ceux qui vont passer seront enregistrés. On saura qui est rentré et puis qui sort. Donc, avec l'ouverture même, ça nous arrange beaucoup. Parce que c'était le trafic aussi. Puisque tous ceux qui passaient, on ne sait même pas qui passait. Ils n'avaient pas de pièces sur eux. Et ils passaient tardivement dans la nuit. Donc, on ne sait pas qui passe.
Malgré cela, il devient difficile de contrôler les voies de contournement au vu de leur nombre, de l'immensité des frontières et le transport illicite de passagers clandestins qui s'y pratiquent, s'inquiète Kadi.
Je jure, parce que n'importe qui rentre, les jeunes qui transportent les gens, ils ne demandent pas où tu vas, ils ne cherchent même pas à savoir comment tu t'appelles. Et c'est en train de vraiment devenir grave.
Dans cette situation d'insécurité au nord du pays, le chef de village de Danois ne croit pas que l'ouverture des frontières pourra éviter l'entrée incontrôlée de personnes étrangères sur le territoire au vu du manque de vérification de l'identité des transhumants. Sans se cacher le soleil avec la mer dans cette période d'insécurité régnante, il le dit sans faux fuyant.
Comme c'est de voir avec les agents de sécurité d'être un peu plus regardants sur ceux qui traversent ces frontières à travers ces pistes-là. Il y a aujourd'hui beaucoup de pistes qui sont empruntées par ceux qui viennent de l'autre côté. Mais l'impression qu'on a, c'est que nos forces de l'ordre ne sont là que pour contrôler souvent les pièces de moto. Parce que là, ils sont sûrs d'une chose, tout le monde ne peut pas avoir les pièces. Mais la personne qui est peut-être sur l'engin n'est pas inquiétée. On peut être en face d'une personne recherchée. Tant qu'on ne procède pas à la vérification de son identité, on ne saura pas qui il est.
D'entre ceux à craindre et qui arrivent par des voies normales ou détournées, se trouvent des honnêtes personnes fuyant les atrocités de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le cas de Maïga, ce réfugié arrivé à Dropo par une piste villageoise.
Maïga Amadou, au réfugié de Burkina et de l'entrée Côte d'Ivoire. Donc, manger, il n'y en a pas. Avis, il n'y en a pas. L'eau, il n'y en a pas. Côté de l'occasion, là. Mais il n'y a pas l'an qui est payé. Donc on rentre ici, on a fait débrouiller, jusqu'à si ce problème n'a pas fini, nous on est là d'abord.
Ici, les déplacés se comptent par centaines chaque jour. L'alternative pour un accueil réussi de ces défavorisés déplacés est leur identification par les chefs des villages d'accueil et leur recensement biométrique au registre des réfugiés pour leur prise en charge, préconise cet habitant de Dropo.
Aujourd'hui, c'est de responsabiliser les chefs de communauté dans les différentes localités, c'est-à-dire dans les villages. Pour que ceux-là puissent identifier ceux qui vont venir vers eux et ensemble interagir au niveau local pour gérer certains problèmes, pour identifier même ceux qui arrivent, pour que ensemble, s'il y a une action à mener, on puisse mener ces actions en face de ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont stigmatisés. Mais si les chefs de village n'arrivent pas à identifier ceux-mêmes qui sont dans leur village, n'arrivent même pas à communiquer avec les différents chefs de communauté des villages, c'est peine perdue.
C'est dans cette perspective que s'inscrit le conseil régional du Bunkani. Yann Philippe, le président de région, sur la question.
Au niveau du conseil régional du Bunkani, chaque jour que nous recevons des réfugiés, nous essayons avec les autorités administratives et avec donc les chefs de village et autres, les présidents des jeunes et des femmes de ces villages, d'en avoir connaissance, de les répertorier et donc d'aider ces familles-là à pouvoir s'en occuper. Nous n'avons pas grand moyen, mais nous apportons déjà l'assistance morale et donc l'assistance technique également.
Le cas de Toubo dans la bande frontalière illustre bien à l'entame du phénomène cette volonté du conseil régional à voler au secours des déplacés. Le président des régions, Yann Philippe, qui rassure.
Nous avons par le passé, vous avez certainement vu les images, nous nous sommes déportés dans la sous-préfecture de Toubo, qui était la première à enregistrer ce phénomène-là en masse. Et avec l'aide donc du ministre d'État, ministre de la Défense, qui est président de la région du Tchologo, qui est donc la région voisine, nous avons pu apporter des vives et des non-vives à plusieurs vagues de réfugiés qui sont arrivées ces dernières années. Et nous sommes toujours dans la même dynamique, accompagner et assister ces réfugiés qui espèrent trouver la paix et la quiétude sur nos territoires.
We'll be right back. Les populations de Dropo s'organisent comme elles peuvent pour accueillir les personnes déplacées du Burkina Faso. Krakoko Binanjak est le directeur exécutif de l'ONG Les Flamboyants et le président de la cellule civilo-militaire de Dropo.
Là, c'est une action déjà qui incombe à l'État de Côte d'Ivoire avec le soutien un peu de ses partenaires extérieurs et de ses partenaires financiers comme le ACR. Nous sommes des humanitaires et je pense que chacun déjà a préparé un peu le terrain par rapport à cela, en sensibilisant un peu les communautés à pouvoir essayer d'accueillir ces communautés dans cet esprit qui est l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Nous plaçons le fonds au quotidien et nous pensons que pour l'instant, il n'y a pas de camp de réfugiés. Les populations réfugiées qui nous viennent sont dans des familles d'accueil. Déjà, c'est déjà bon.
Est-ce que vous n'avez pas une appréhension du fait que le nombre augmente de jour en jour?
C'était vraiment prévisible. Au vu de l'actualité internationale que nous écoutons au niveau du Mali et puis au niveau du Burkina, nous dirons même que ce nombre-là pourrait encore augmenter les semaines à venir. C'est dire que réellement, la Côte d'Ivoire continuera de recevoir un peu ses réfugiés, mais ça sera avec joie que nous recevrons ses frères qui ne recherchent que la survie, qui ne recherchent que réellement à vivre et à pouvoir vraiment exister comme nous autres.
Selon vous, quels sont leurs besoins prioritaires?
Les besoins prioritaires sont les besoins prioritaires de base. C'est d'abord l'accès à l'eau potable, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès aussi au respect. Vous voyez, un vieux de 60 ans qui quitte sa localité, qui revient quelque part dans une autre localité en tant que réfugié, il a besoin vraiment d'être respecté, d'être considéré. Il a besoin que ses besoins fondamentaux soient pris en compte dans toute leur globalité. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions par rapport à cela, à travers déjà les consignes qui ont été donnés au ministère de l'Éducation pour essayer de réintégrer automatiquement les enfants qui sont en situation scolaire. Au niveau de la santé, tous les services de santé sont ouverts pour pouvoir accueillir un peu ces personnes-là. Et nous pensons que réellement, des actions sont déjà entreprise, mais nous avons besoin réellement, comme le disait le président Ayen Philippe dans une allocution ce matin, on a besoin vraiment d'un plan Marshall pour le Bunkani. Et ce plan Marshall, c'est un plan qui sera un peu différent des autres plans. Un plan où réellement on va restaurer l'homme dans sa dignité, un plan où on va restaurer l'homme dans ses besoins fondamentaux et nous pensons à ce prix qu'on pourra atteindre notre objectif en termes d'accueil.
Enfin, ce qu'il pense aujourd'hui de l'ouverture des frontières.
Cette ouverture a été souhaitée depuis des années. C'est vrai qu'elle est ouverte. Aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes et des biens. C'est en même temps la prudence parce que c'est des vecteurs de maladies comme le Covid qui risquent vraiment de prendre un peu de l'ampleur dans la zone. Et en termes de sécurité, il va falloir beaucoup plus de vigilance au niveau de nos FDS parce que il y a le bon réfugié, il y a le mauvais réfugié.
Pour Lanta Tilpouté, opérateur économique, l'État marque suffisamment sa présence à les forces de défense et de sécurité qui garantissent au mieux la sécurité des lieux.
L'État déjà est à pied d'œuvre avec nos forces présentes sur les zones à risque. Et on voit, il y a des engins militaires qu'on ne voyait pas auparavant. Mais aujourd'hui, avec ces engins-là, ça sert de dissuasion. Et des fois, il y a des patrouilles mixtes qui sont dans la zone. Je crois que l'État fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant.
Il s'agira, selon lui, de restaurer la confiance des populations et l'État et la collaboration avec les FDS, dont l'image est quelque peu ternie, par leur agissement parfois contraire à l'État. Du métier, la grogne généralisée des populations de Bunkani.
Il va falloir que l'État encore travaille plus avec les civils et l'État doit collaborer aussi avec les responsables des quartiers et des chefs de famille pour que vraiment il y ait vraiment une collaboration avec cette population-là, le corps et la population. Il va falloir que l'État aussi sensibilise nos corps à exercer normalement leur métier d'homme de sécurité parce que des fois, nos hommes font le contraire de ce qu'on leur a demandé.
Enfin, s'occuper au mieux de l'employabilité des jeunes. Terreau fertile à l'extrémisme violent qui tente de s'implanter dans la région.
Donc il va falloir que l'État essaie aussi d'appuyer la jeunesse en matière d'employabilité. Parce que quand les jeunes sont désœuvrés, ils s'adonnent à toutes sortes de pratiques, voire en tout cas s'enrichir. Ils peuvent même envoyer l'ennemi parce que si le jeune n'a pas d'emploi, il est tenté à plusieurs choses. Mais il va falloir que l'État fasse vraiment, recense vraiment les jeunes et puis les occuper. Les jeunes désœuvrés, il faut les occuper. Ceux qui n'ont pas d'emploi fiable, il faut les appuyer, il faut les accompagner.
Cette remarquable résilience communautaire des peuples du Bunkani a vivement besoin de soutien. Ce reportage vous a été proposé par Jérôme Kwasi de Bouna pour le compte de la Radio de la Paix.